Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse 3, les versets 20 à 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme le nous pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, si vous voulez, on va demander la bénédiction du Seigneur pour l'étude de sa parole. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes réunis aujourd'hui, en ce jour, pour prier, pour entendre ta sainte parole, pour qu'elle touche, Seigneur, nos cœurs et nous transforme, et qu'elle change les choses en nous. Tu sais, Seigneur, à quel point il y a tellement de choses en nous à changer. Et on sait qu'à chaque sermon que tu permets qu'on entende, Seigneur, ton esprit touche nos cœurs et que ça provoque chez nous des changements réels, authentiques et qui sont même perceptibles par les autres dans nos vies. Alors, Seigneur, que ton esprit ce matin nous éclaire, nous guide, élimine nos intelligences, notre compréhension du texte. Et Seigneur, donne-nous aussi de vraiment accueillir ta parole et qu'elle produise des effets réels dans nos vies de tous les jours pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « De la sentence divine de mort jaillit la vie ». Alors, on va regarder la vie à l'intérieur de ce chapitre-là. Elle est comme dans le verset 20, prophétisé par le fait que Adam change le nom de sa femme. On va voir tantôt les détails de tout cela. Et la vie va être précisée et la vie va être protégée dans le verset 24. Alors, je pense qu'on ne peut jamais aller on peut jamais trop comprendre la richesse du chapitre 3, son importance aussi quant à la compréhension du reste des Écritures. Le chapitre 3 de la Genèse est fondamental parce que c'est le chapitre qui nous apprend la chute de l'homme, comment ça s'est produit et quelles sont les conséquences de tout cela. Et quelle est aussi, comme le dit Genèse 3:15, la solution que Dieu apporte au problème que l'homme a laissé rentrer dans le monde, non seulement les répercussions que tout cela a eues sur lui, sur le couple, mais aussi sur toute l'humanité, les descendants. Alors, c'est important de saisir le problème de l'entrée du péché dans le monde, ses conséquences tragiques, et, comme on vient de le dire, aussi l'introduction de la solution divine. On a vu dans ce chapitre-là, puisque l'on est rendu à la fin du chapitre, on va faire un très, très bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici, de manière à ce qu'on apprécie davantage l'ensemble du passage. On en avait vu comment Satan, qui était incarné dans le serpent, qui était l'ennemi de l'âme des hommes, comment il avait procédé pour provoquer la chute de l'homme. Alors, les Écritures nous enseignent des choses sur Satan. Premièrement, la première chose qu'ils nous enseignent, c'est qu'il était fort rusé. Quand on parle dans la vie, que quelqu'un nous approche, qui veut nous vendre quelque chose, quoi que ce soit, s'il est rusé, il faut faire attention parce que les gens sont subtils dans leur approche. Alors, Satan, la Bible dit qu'il était fort rusé. Il est rusé dans ses méthodes. Qu'on se souvienne comment il avait procédé pour tenter Ève, il avait profité du fait qu'elle était seule, loin du mari. Et aussi, proche de l'art de la connaissance du bien et du mal. Alors, il a vraiment choisi sa circonstance pour que ça soit sa tentation soit au maximum. Une autre méthode, donc la méthode, on vient d'en voir quelques aspects, un autre aspect de sa méthode, mais qui semble à première vue inoffensive, c'est le questionnement. Et c'est sûrement quelque chose qui nous touche tous, les questions, on se pose des questions sur les Écritures, sur certaines doctrines plus que d'autres, et le questionnement, il faut faire attention, parce que il y a des questions qui sont légitimes, qui sont correctes, mais il y a des questions qui peuvent nous venir de l'ennemi. Et à ce moment-là, c'est vraiment, il faut faire attention de ne pas tomber dans le même piège que Ève en s'engageant dans une conversation avec le malin. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le malin est d'une intelligence de beaucoup supérieure à la nôtre. Et il est capable de nous... Alors, il ne faut pas engager de conversation jamais avec l'ennemi. Alors, la première chose qu'il a dit quand il a approché Ève, il n'a pas dit « Dieu n'a pas parlé », il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, il veut commencer à amener des doutes dans ton esprit. Et on a vu que ces méthodes, en général, pas en général, tout le temps, étaient ambiguës, dans le sens que il ajoute à la parole de Dieu. Ensuite, la prochaine étape, il la nie. Et ensuite, il va pousser son audace jusqu'à questionner les motifs de Dieu. C'est comme s'il voulait laisser sous-entendre à Ève, ben c'est parce que Dieu a des choses qu'il veut garder pour lui, mais il ne veut pas vous en faire profiter. Alors, c'est vraiment une accusation de Dieu lui-même. Et après ça, vraiment, pour faire tomber la personne, il veut lui promettre des bénéfices. Mais non, tu ne mourras pas. Tu vas être comme Dieu. Tu vas connaître la différence entre le bien et le mal. Et là, il dit, il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit, mais il y a une grosse, très, très, très grande partie de mensonge. Alors, l'erreur d'Ève a été très certainement d'engager une conversation avec lui. Et le fait qu'elle ait eu la conversation, et que le malin a ajouté, nié, ça l'a amené à vaciller et à se laisser séduire par les fausses promesses du malin. Vos yeux seront ouverts, vous serez intelligents, et tout cela. Mais on a vu, et ça c'est vraiment constant, c'est pas juste le chapitre 3 de la Genèse, le péché est toujours contagieux. Quand quelqu'un, je ne sais pas, une grave maladie, si quelqu'un rentrerait ici, on saurait qu'il y a une maladie extrêmement grave, qui est mortelle, contagieuse, ça voudrait dire « Oh, on se tient loin, mon ami. » Alors, le péché, lui, est toujours contagieux. Ève tombe, mais non seulement elle ne s'est pas contentée de tomber elle-même, mais elle a voulu entraîner quelqu'un à sa suite. Et quand on lit Romains nous parle que les pécheurs ont encore cette caractéristique-là, que de vouloir toujours, non seulement tomber dans le péché, mais de vouloir entraîner les autres dans le péché aussi. Alors, ça persiste encore de nos jours. Alors, le péché est contagieux, c'est une des choses que le chapitre 3 nous apprend. Alors, elle propose à son mari de la suivre et lui tombe dans le panneau. Alors, le premier couple humain a désobéi. Et ça l'a entraîné à leur suite toute leur postérité. On se souvient que dans Romains 5-12, ça dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, c'est le péché, les Écritures nous apprennent qu'on était en lui et que nous aussi, on est tombé par la même occasion. Alors, on a vu que la sentence que Dieu avait donnée s'était exécutée en deux temps. Le premier temps, ça a été la sentence officieuse. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et leur façon de réagir à ça, ça a été de vouloir se cacher de Dieu. Quand on regarde la méthode, la réaction qu'ils ont eue, et quand on regarde l'ensemble des péchés qui se commettent autour de nous, n'est-ce pas que c'est encore la même chose aujourd'hui? Quand quelqu'un pêche, un voleur par exemple, un fraudeur, quand ils se font prendre, sont toujours innocents, Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont toujours victimes. Il y a des gens qui ont cherché à détruire leur réputation, etc. Le pécheur, Ève, Adam, et tous les autres pécheurs qui ont passé par la suite, héritent de cette même caractéristique de toujours cacher sa faute. Alors, comme le Seigneur l'avait dit, comme le malin l'avait dit, les yeux de l'autre s'ouvrirent. Oui, ils se sont ouverts, mais ils ne se sont pas ouverts à la promesse que lui avait faite. Ils se sont ouverts pour se rendre compte que leur communion avec Dieu venait de se briser et qu'ils étaient maintenant devenus des ennemis de Dieu. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Et leur façon de réagir, c'est vraiment un peu la réaction de l'homme. Quand il brise sa relation avec Dieu, il cherche à se construire une justice propre. Alors eux, on sait qu'il y a tout le symbolisme de vouloir mettre une ceinture. Imaginez-vous une ceinture faite avec des feuilles. C'est pas fort, parce que ça fait pas des sous-vêtements forts, comme on dit. Ça fait pas un vêtement fort. Donc c'est vraiment une image, un symbole de l'œuvre, des œuvres humaines qui cherchent à se couvrir. On va revenir un petit peu sur le thème du vêtement tantôt, parce qu'on va voir que l'Éternel, dans un des versets, dit que c'est lui-même qui a couvert Adam et Ève maintenant d'une peau d'animaux, d'animal. Alors, on va voir toute la symbolisme de tout ça tantôt. Donc, la première chose qui se passe, c'est vraiment une sentence, je l'appelle la partie sentence, la partie officieuse. Ils se rendent compte, mais ils n'ont pas encore rencontré le Créateur, ils n'ont pas encore reçu son châtiment, ils n'ont pas encore reçu sa sentence. Mais on sait que leur réveil est mené brutal. Dieu les amène à la barre. Et on se souvient qu'il avait d'abord interrogé Adam. Pourquoi il a interrogé Adam en premier? Alors que c'est parce que c'était le chef, le représentant de la race. Et c'est lui qui était responsable, même si sa femme a tombé avant lui. Le Seigneur interroge d'abord Adam. Et lui, il offre une excuse vraiment pitoyable. « C'est pas ma faute, Seigneur, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. » Et non seulement à l'intérieur de sa réponse, il y a comme une allusion que c'est quasiment Dieu qui est responsable de sa chute. Et il y a beaucoup de folie dans la réponse de l'homme face au péché. Et ça n'a pas changé depuis ce temps-là, on est encore pareil. Alors, on apprend d'Adam et d'Ève que leur manière d'agir quand Dieu accuse de péché, on est toutes pareilles, on est toujours porté à mettre la faute sur l'autre. Alors, il dit, c'est la faute d'Ève. Alors, le Seigneur interroge maintenant Ève, qui, elle aussi, adopte une attitude comme celle de son mari, et elle s'est tournée de bord, puis elle dit, « Ben voyons, pas ma faute, c'est la faute du serpent. » Alors, on voit cette manière de toujours s'excuser. Et entre chrétiens, même entre nous, si on se fait des réprimandes et si on se fait un reproche, vous remarquerez que c'est quasiment automatique. On dirait que ça fait partie de notre nature. Puis toi, tu sais, si tu reçois quelqu'un te fait un reproche sur ton comportement ou quoi que ce soit, c'est rare qu'on va accueillir avec humilité et dire, « Ouais, c'est vrai ce que tu me dis là. Peut-être que je devrais changer. » On est toujours porté à prendre le boomerang puis le retourner vers la personne qui nous a dit la chose. Pas pire que toi. Alors, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre nature, qui est mauvais. Alors, ensuite, le serpent, lui, Dieu, ne le questionne pas. Il lui dit pas pourquoi tu as fait ça. Il est vraiment exclu. Alors, il vraiment lui donne sa sentence suite, qui est celle de marcher sur son ventre, celle de manger de la poussière tous les jours de sa vie. Et aussi, sa plus grande défaite de toutes, ça a été vraiment dans Genèse 3.15, où le Seigneur vient lui dire que lui qui croyait être victorieux, il lui annonce prophétiquement la venue du Messie, Jésus-Christ. Alors, Genèse 3.15, c'est vraiment la première annonce de l'Évangile dans le livre de la Genèse, qu'on a appelé le proto-Évangile, si vous vous souvenez. Alors, il lui annonce ça, alors il lui annonce sa défaite définitive et sa défaite définitive par la postérité de la femme. Et on se souvient, la postérité, c'est pas uniquement que tu vas avoir des enfants, on parle souvent de la postérité dans ce sens-là, tu vas avoir des enfants, mais On a vu que dans Galates, vraiment le Nouveau Testament interprète le sens du mot postérité. Ta postérité écrasera la tête du serpent, et dans Galates, ça dit que ta postérité, c'est Christ lui-même. Alors, il est en train de lui annoncer que, oui, tu vas la blesser au talon, mais elle va t'écraser la tête. Autrement dit, le symbolisme de que tu vas avoir la victoire sur le mal, mais que en venant sur terre, Christ va quand même subir des choses difficiles. Se faire mordre au talon, ça ne doit pas faire du bien. Alors, c'était un peu tout le symbolisme de ce que Christ a reçu quand il est venu sur la terre. Alors, le couple se voit donner des sentences qui sont différentes. Pour Ève, on se souvient que c'était l'enfantement dans la douleur et la soumission et la domination par son mari. Pour Adam, c'est la peine pour obtenir sa nourriture et que la terre aura le dernier mot quand il lui dit « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et à cette heure qu'on va examiner le fait que la sentence de Dieu est très sévère, mais que malgré toute cette sévérité-là qu'on a vue dans les semaines précédentes, Dieu va donner des signes de miséricorde et de promesses de vie. Et c'est très intéressant, le verset 20, parce que parfois on peut lire ce passage-là et ne pas percevoir qu'est-ce qu'il y a dans ce verset-là. Comme quand ça dit dans le verset 20, donc on va regarder, comme on a dit tantôt, le premier point, la vie prophétisée. On a dit que de la sentence de mort, de la sentence divine de mort, jaillit la vie. Donc, ils ont amené vraiment des ténèbres sur la terre, mais de ça, Dieu fait sortir la vie. Et il le fait, dans le verset 20, on le voit par le fait que Adam donne un nouveau nom à sa femme. Et que dans ce nouveau nom-là, il y a comme une adhésion de foi que ce que le Seigneur a dit dans Genèse 3:15, il le croit, c'est comme la première manifestation de foi, un peu, des Écritures. Alors, ça dit, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Je voudrais, pour qu'on puisse vraiment apprécier qu'est-ce qui se passe dans le verset 20, on va reviser ce qu'on avait vu dans une leçon précédente concernant la signification du nom à l'époque biblique. Alors, on avait vu ça déjà dans une leçon précédente. Alors, le nouveau dictionnaire biblique révisé et augmenté dans l'édition Emmaüs de 2012, sous l'article « nom ». Si vous allez dans ce dictionnaire-là, vous allez dans le mot « nom », dans les « n », vous allez voir à la page 913, ceux qui ont la même édition que moi, là, 2012, édition Emmaüs, et ils vont lire la phrase suivante concernant la signification du nom à l'époque biblique. Alors, il parle de son importance. Il dit, à l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Le nom participe en quelque sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Alors, l'essence de la personne, le nom, à l'époque biblique, a pour but de révéler quelque chose d'essentiel à la personne. Pourquoi Adam décide de donner un nouveau nom à sa femme? Parce qu'avant, on va aller voir, tantôt, les deux noms hébreux, là. Pourquoi il décide de lui donner un nom? C'est une manifestation de la foi qu'il a en la promesse de Dieu, que Dieu avait fait en Genèse 3:15. Alors, on va regarder les noms. Si on recule dans Genèse 2:23, pourquoi il change de nom? Parce qu'il y avait un autre nom qu'il avait donné à la femme avant. Alors, Genèse 2:23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, ou os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, le nom hébreu qui est traduit « femme » dans le verset 23 est « Isha ». Ish, ça veut dire le principe masculin de l'humanité. Isha, le principe féminin, pour rappeler que la femme a été tirée du côté de l'homme. Alors, la première fois qu'il y a eu un nom donné, ça a été Isha. Maintenant, ici, après que le Seigneur eut annoncé prophétiquement la venue future du Messie, par la femme, Adam change le nom pour Ève, de l'hébreu Hava, qui signifie vie. Autrement dit, il avait pris conscience que par son comportement et celle de sa femme, la mort était entrée dans le jardin. Et maintenant, il prend conscience que par la foi qu'il donne à la promesse divine, il voit comme dans sa femme l'espoir que le Messie promis, il viendra peut-être pas nécessairement à la première génération, mais on va voir un petit peu plus tard que Ève a le cru que son premier fils, les fils qu'elle a eu après, c'était une perception dans sa tête que ça pouvait être le Messie. Mais on sait que ça a pris au moins 2000 ans. Mais Dieu avait dit que c'était par l'intermédiaire de la descendance, la semence. Le mot utilisé, quand on regarde la semence, c'est Christ. Vraiment, les Écritures nous disent, oui, Dieu permet que par elle, la vie... Donc, la mort était entrée dans le monde, mais par elle, la vie était pour se continuer par le fait qu'il ne lui enlève pas le privilège de la maternité. Ça va se perpétuer de siècle en siècle jusqu'à l'arrivée de celui promis, le Messie, qui est Jésus-Christ. Alors, ici, c'est comme si Adam, percevant qu'ils ont laissé tous les deux entrer la mort dans la vie, maintenant, il prend conscience qu'en donnant un nouveau nom à sa femme, il sait que Dieu va donner foi et donner suite à la promesse qu'il a faite, même s'il ne sait pas quand ça va arriver. Alors, c'est très important de signifier ça. Alors, elle s'appelait Isha au début, maintenant elle s'appelle Hava. Et Hava, ça veut dire vie. Alors, de la mort sort la vie. La vie... Bien entendu, la vie de tous les enfants qu'elle va avoir dans la suite des temps, la maternité ne lui est pas enlevée, et aussi la vie avec un V majuscule qu'on peut dire quand le Messie va arriver. Alors, il semble que Adam perçoit ça et que ce soit une première manifestation de sa foi à la promesse de Dieu. Alors, Adam aurait eu pourtant toutes les raisons de l'appeler mort. Il l'appelle vie. Alors, il l'a accusé d'être responsable de son propre péché. Et à la lumière des jugements divins, il aurait pu donner libre cours à sa frustration en rattachant son nom à l'idée de mort. Et on voit, c'est pas ça qu'il fait, il donne au nom de son épouse l'idée de vie, parce qu'il croit que par elle va venir... Le Messie. Alors, Adam prend courage en entendant les bénédictions incluses dans les malédictions et s'y accroche fermement. Alors, au milieu du verdict de mort brille la promesse de vie et d'espérance. Alors, si le premier nom d'Adam a été donné à sa femme soulignait son origine, parce que le mot Isha veut dire « prise » de l'homme, dans le chapitre 2, verset 23. Maintenant, le nouveau nom sert à lui rappeler sa destinée. Donc, le premier nom, c'était pour lui rappeler son origine. Maintenant, l'autre, c'est pour lui rappeler sa destinée, la vie qui va arriver. Donc, probablement, la vie pour eux-mêmes, parce qu'ils ont donné foi à Dieu. Donc, en croyant au Messie à venir, c'était les premières manifestations de la foi. Alors, tous ceux de l'Ancien Testament qui ont été sauvés croyaient au Messie à venir, et à partir du moment que Christ est venu, nous, on croit au Messie qui est venu. Alors, c'était très important de faire la distinction. Alors, vraiment, le premier nom, c'était son origine. Le deuxième nom, c'est vraiment sa destinée. Autre chose que le verset nous enseigne, qu'on ne remarque pas nécessairement, c'est que Adam réaffirme son autorité. On se souvient que le fait de donner un nom à quelqu'un, c'est une autorité. Pourquoi je m'appelle Marcel? Moi, c'est parce que, pour, en venant au monde, je n'ai pas levé la main et je dis, mais, appelle-moi Marcel. Les gens, ma mère, mon père, ont décidé, ensemble, de me donner le nom de Marcel. Et depuis ce temps-là, je porte le nom de Marcel parce que l'autorité de me nommer, elle ne m'est pas donnée à moi. Elle a été donnée à l'autorité. Alors, celui qui donne le nom a toujours autorité. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, il dit, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Alors, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est quand on saisit qui la personne va être. Et voyez-vous une illustration de ce qu'on disait tantôt, le principe de connaître l'essence de la personne. Il dit, la personne qui va venir au monde, qui va être le Messie, tu lui donneras le nom. Le nom reflète l'essence de la personne. Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez-vous, c'est ça qui se passe un petit peu dans le verset 20. Dieu permet que Adam, dans sa lucidité, voit que la femme, sa femme, va devenir l'instrument par lequel Dieu va emmener la solution au péché. Jésus-Christ, mais il ne sait pas quand, mais il y a la foi. La foi, c'est... Moi, je ne sais pas quand le Seigneur va revenir non plus, mais j'ai la foi qu'il va revenir. C'est exactement la même situation. Alors, ici, l'ordre est rétabli par le fait que l'ordre dans un foyer, c'est Dieu a voulu que ce soit le chef. Alors, le malin a cherché à détruire cet ordre-là. Maintenant, l'ordre est rétabli. Le rôle de chef du mari, qui est voulu par Dieu, se retrouve dans le contexte de l'espérance de l'Évangile qui met fin à la malédiction. Si bien que les relations entre les sexes peuvent maintenant de nouveau être conformes à l'intention originelle de Dieu. Donc, prophétiser dans le nom. Prophétiser aussi dans le rôle de la femme. Parce que si Dieu avait voulu, à partir du moment que l'être humain tombait, les deux ont tombé, la mort, il avait dit que tu mourras certainement, il aurait pu les faire mourir tout de suite, du final, puis il aurait eu juste qu'est-ce qu'il méritait. Alors, quand on dit « de la mort jaillit la vie », c'est vraiment, il veut qu'on voit la miséricorde et qui fait jaillir de la mort la vie. Satan, il s'est servi d'Ève pour faire entrer la mort dans le monde. Dieu va maintenant se servir d'Ève pour faire entrer la vie, réentrer la vie dans le monde. Alors, par plusieurs moyens, la propagation de la vie par la maternité. Alors, on sait, on va avoir eu d'autres enfants. Que ces enfants-là ont eu d'autres enfants. Et à mesure qu'on va avancer dans la Genèse, la promesse du Messie va se préciser de plus en plus. Tu vas venir par telle tribu, tu vas venir dans telle ville, tu vas venir dans telle... Et tout ça va se préciser de plus en plus. Plus on va avancer, le déploiement de l'identité, de la manière dont Christ va arriver, va se préciser de plus en plus. Alors, il ne lui a pas enlevé le rôle de la propagation de la vie par la maternité jusqu'à la venue du Messie promis, dont le Messie promis, lui, viendrait rétablir la vie spirituelle et la vie éternelle. Alors, vraiment, quand on peut dire aussi prophétiser par la foi, si quelqu'un demande « Est-ce que tu crois qu'Adam et Ève ont été sauvés? » La réponse est oui, parce que Adam, ici, par ce verset-là, c'est vraiment une réponse à la promesse de Dieu et dans laquelle il prête foi. Oui, je sais, même je change le nom de ma femme parce que je sais que par elle, la vie va arriver. C'est vraiment une manifestation de foi. On avait vu la deuxième idée, c'était vraiment la vie précisée. Alors, les versets 21 à 23 nous enseignent que Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève au désespoir. Il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, bon, je t'avais dit, t'as manqué, maintenant, subis les conséquences. Mais il ne l'abandonne pas, mais d'un autre côté, il va lui faire sentir que ses gestes ont eu des conséquences, il va les subir, mais à l'intérieur de ça, il y a de la vie et de la miséricorde, il y a de l'espérance. Alors ça, c'est vraiment, si nous on est ici et on est des croyants aujourd'hui, c'est parce que Dieu a bien voulu faire ça avec ceux qui avaient manqué. Alors c'est comme s'il voulait les placer dans ce qu'on pourrait appeler une seconde probation, mais dans des termes divins. La seconde probation, les termes divins étaient quoi? Premièrement, la foi en sa promesse du Messie à venir. Autrement dit, les hommes, à partir de la chute, à partir du que Dieu a donné sa sentence, la seule façon de rétablir la communion avec Dieu, de rétablir la paix avec Dieu, c'était selon les termes divins du Messie à venir. Et tout ça va se préciser plus longtemps. Autre chose que le verset 21-23 nous montre, c'est qu'il faut avoir le bon vêtement. On va tout développer un petit peu l'idée du vêtement dans les Écritures, avoir le bon vêtement pour se présenter devant lui. On a vu que Dieu, s'il avait trouvé que leur vêtement cousu de feuilles était correct, ils auraient laissé comme ça. Mais il a fallu qu'un animal perde la vie. Il y a l'idée du sacrifice en arrière de ça, il y a l'idée du sang. Et on se souvient que Jésus-Christ porte le nom de l'agneau de Dieu. Alors, dans la seconde probation, les termes divins, c'est avoir la foi dans la promesse du Messie à venir, avoir le bon vêtement pour se présenter devant lui, et aussi l'acceptation et la réception des moyens de discipline. Je pense que ça s'applique, parce que là, on va voir que malgré le fait qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de la vie qui jaillit de la mort, ils vont quand même être chassés du jardin. Alors, c'est ça la discipline. Je pense que ça continue à s'appliquer encore à nous aujourd'hui. Oui, il faut venir au Seigneur dans le Messie venu. Oui, il faut avoir le bon vêtement pour se présenter devant lui. Et oui, aussi, il faut accepter que Dieu, durant tout notre cheminement, lui aussi va nous faire connaître des moyens de discipline. Il ne nous laissera pas pécher à tour de bras, et à un moment donné, un jour, si on persiste dans le péché malgré les avertissements, il va nous corriger. Et la dernière chose, c'est que l'espérance. Moi, aujourd'hui, je sais que Christ va revenir parce que les Écritures me l'enseignent. L'espérance, la seconde venue du Seigneur. Les Écritures l'enseignent, je ne sais pas quand ça va arriver, mais les termes, Dieu veut que je croie en sa promesse. Autant Adam a cru que le Messie viendrait, autant nous, qu'on sait qu'il est venu, il faut venir selon ses termes à lui, et il faut venir aussi en espérant son retour. Alors les termes, c'est comme si on avait une seconde probation, mais la seconde probation est définie avec des termes, des nouveaux termes divins. Alors, on sait qu'au début, il y avait eu des termes, maintenant les termes changent. Alors, le standard de Dieu, dans le verset 21, l'éternel Dieu, voyez-vous, qui les fait? Qui fait le vêtement? C'est pas qu'eux, ils ont décidé, bon, OK, des feuilles pas solides, on va aller tuer un animal, on va se vêtir avec ça. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce que ça implique? Pour qu'il lui donne un habit de peau, ça impliquait qu'un animal soit tué, qu'il y ait du sang qui soit versé, et l'animal... Et on a remarqué que Dieu n'a pas donné à Adam et à Ève aussi des vêtements de soie, des vêtements de luxe. Il leur a donné des vêtements de peau d'animal. Alors, c'est vraiment une préfiguration du sacrifice de Christ que pour rentrer à sa présence maintenant... Il faut que tu sois recouvert du manteau de justice de Jésus-Christ. On va voir un petit peu plus les détails de tout cela tantôt. Et il les en revêtit. C'est Dieu qui nous revêt. N'est-ce pas que c'est encore la même chose aujourd'hui? Alors, Adam et Ève laissent Dieu les revêtir. Cette action leur rappelle continuellement deux choses. Lesquelles? Leur culpabilité. Ils sont arrivés... Comment ils ont commencé à sentir leur culpabilité par leur nudité? C'est par le fait qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient brisé la relation avec Dieu. Donc, ils sont arrivés, le péché est arrivé, et le fait qu'ils se voient eux-mêmes comme nus, c'est vraiment les symboles de leur pauvreté, de leur désobéissance et de leur rébellion. Donc, c'est un rappel constant de notre désobéissance, et aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, ça nous rappelle qu'on porte des vêtements, ça nous rappelle deux choses. Notre pauvreté et notre infamie, et ça rappelle aussi la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je peux dire je crois en Christ, c'est lui qui m'a revêtu de la justice de Christ. C'est pourquoi que je me revêt de la justice de Christ, parce que je reconnais ma nudité, ma pauvreté, et que j'ai besoin d'être recouvert de quelque chose que je ne peux pas me recouvrir par moi-même. Alors, tout cela, la question d'être revêtu, ça confirme ses promesses et ça établit aussi une relation durable avec le couple pécheur et confus. Le vêtement dont Dieu les couvre est complet et solide. Les feuilles, il m'a dit, en fait, on n'a pas tiré bien fort là-dessus pour briser ça. Ça nous rappelle un peu le côté de les œuvres humaines. Si l'être humain cherche à se couvrir par lui-même, par ses propres œuvres, c'est très fragile et ça vaut pas, c'est pas très solide. Alors, le vêtement que Dieu donne, couvre l'être humain, c'est solide et c'est complet. Mais, comme on a dit tantôt, ça a nécessité la mort sanglante et le sacrifice d'un animal. Alors, déjà, l'idée du sacrifice, est déjà introduite et graduellement, dans tout l'intérieur de l'Ancien Testament, ça va se développer. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a été appelé l'agneau de Dieu. Et quand on lit tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, dans Lévitique, dans Exode, qu'est-ce qu'on voit? Un animal, l'être humain venait s'identifier, on lui enlevait la vie, on prenait le sang, on faisait des choses avec. C'est vraiment toutes des choses qui pointaient vers Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur le vêtement spirituel. Par exemple, si on va dans Apocalypse 3, versets 17 et 18, on parle d'une église. Le Seigneur, on sait, il a parlé à cette église, et la dernière s'appelait la Odyssée. Et voici ce qu'il leur dit. Il dit, parce que tu dis, il parle à une église, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il parle d'une église. Quand tu parles d'une église, si quelqu'un est nu, c'est parce qu'il n'a pas encore pris conscience de la nécessité du vêtement spirituel de la robe de justice de Christ. C'est ce qu'il leur dit. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Alors, bien sûr, on n'est pas en train de faire une étude approfondie de l'Apocalypse, mais le symbole est vraiment fort. Il lui dit, « T'es nu, et je te conseille de t'acheter des vêtements blancs. » Des vêtements blancs, c'est vraiment la blancheur, on sait que c'est le symbole de la sainteté, le symbole de la pureté. Alors, il faut qu'il ait ces vêtements-là. Il dit que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Autre passage des Écritures qui nous parle encore d'habillement, Apocalypse chapitre 7, verset 14. « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux... Ici, il y a quelqu'un qui demande qui c'est la grande multitude. Et le Seigneur, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Si vous prenez une robe, si vous la mettez dans le sang, ça blanchit-tu ou ça rougit? Ça rougit. Mais ici, l'image, l'enseignement est que le sang de Christ blanchit notre robe à nous. Alors, il dit, ceux qui sont venus de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est une image forte, hein? Parce qu'on est en train de dire, on prend un vêtement, on le trempe dans le sang, on aurait dû dire, ils ont rougi dans le sang de l'agneau. Et là, il change de verbe, il dit, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Alors, le sang de l'agneau blanchit notre vêtement. Très important. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 2 et 3. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et pas nus, et non pas nus. Voyez-vous, l'image qui est enseignée dans 2 Corinthiens 5, c'est qu'on ne peut pas entrer au ciel nu. La nudité devant Dieu, c'est d'essayer de rentrer avec nos propres œuvres. Il nous dit que nos œuvres, c'est comme un torchon souillé. Il n'en veut pas de ça, des œuvres humaines. Ce qu'il veut, c'est que par la foi, on revête la robe de justice de Christ qui est parfaitement immaculée parce que lui, sa vie sur terre a été une vie d'obéissance parfaite à Dieu durant toute sa vie et que cela nous est imputé, mis sur notre compte. Alors, on voit l'importance du vêtement. Et on sait que les Écritures nous enseignent aussi que le vêtement, dans les Saintes Écritures, est un type de la justification. Qu'est-ce que c'est la justification? Je vous pose la question ce matin. Il y a deux choses de compris là-dedans. Il y a le jugement pour tes péchés et il y a aussi le fait que quelqu'un a accompli à ta place. C'est deux aspects. Quelqu'un a pris ta punition à ta place et quelqu'un a accompli les exigences de Dieu à ta place. Alors, c'est un type de la justification. Voyez-vous, on le voit dans Zacharie, chapitre 3, versets 4 et 5. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Vraiment le symbole de si on se présenterait à Christ avec notre vêtement, nous, il serait sale, parce qu'il est bourré de péché. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. » Voyez-vous, il enlève son vêtement sale, puis il lui met un vêtement de noces, c'est un vêtement de dignité. Ésaïe 61, verset 10. Ça, c'est un beau verset pour un peu résumer tout ce qu'on vient de voir sur la nécessité du vêtement devant Dieu. Il dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonde d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Alors, il est en train de dire que c'est Dieu qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Pas moi, pas mon vêtement, c'est le vêtement que Dieu a bien voulu que je sois revêtu avec sur la base de ma foi, encore là qui est un cadeau de lui, de ma foi en la personne de Christ et que c'est lui qui accomplit ces choses-là. Donc, c'est un symbole de justification. On va aller voir deux autres passages du Nouveau Testament qui confirment encore cette idée-là. C'est important de la saisir parce que quand on lit le verset 21 et que le Seigneur nous parle qu'il l'a revêtu d'un habit de peau, il faut faire le lien avec ces versets-là parce que ça devient encore beaucoup plus intéressant. Luc 15, versets 21 à 24. Alors ici, c'est le passage du fils prodigue. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Vraiment, l'idée, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Il y a tout le symbolisme. Il avait vécu une vie de péché, dilapidé les biens que son père lui avait donnés. Et quand il est revenu, il avait vraiment l'attitude de repentance. S'il veut me donner une job avec les cochons, il va apprendre. Parce qu'il savait qu'il serait bien chez son père, et son père lui donne beaucoup plus que qu'est-ce qu'il demandait. Il aurait juste demandé d'être nourri. Et le père lui l'a revêtu de sa robe. Il dit, bon, il était mort, il est revenu à la vie. Alors, on a vraiment l'idée de la repentance. Matthieu 22, versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors vraiment, on a vraiment l'idée du verset 21, de le vêtement qui est donné par Dieu lui-même. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Alors, ce qui était vrai pour Adam, là, c'était vraiment physique, un habit, mais je pense qu'il y avait à l'intérieur de ça tout l'enseignement qu'on se doit d'être couvert par Dieu lui-même. Alors, dans le verset 22, on a vraiment une autre idée, c'est que Dieu manifeste quand même aussi sa miséricorde dans le fait qu'il protège l'homme et la femme contre eux-mêmes. Quand il leur dit, dans le verset 22, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Autrement dit, ça aurait été vraiment, vraiment, quand on est des pécheurs, des fois on vient qu'on a assez de la vie parce qu'on trouve ça très dur, mais si on avait la vie éternelle, on trouverait ça vraiment long. Alors Dieu, dans un geste de miséricorde, les empêche de pouvoir retourner et de prendre du fruit de l'arbre de la vie par lequel ils seraient devenus éternels. Éternel et pécheur en même temps, c'est pas une bonne recette. Alors on voit que Dieu manifeste encore là de la miséricorde envers eux en les protégeant contre eux-mêmes. Autrement dit, si on te met dehors, tu ne pourras pas retourner en dedans. Et là, c'est pour là qu'il a mis les anges, pour garder le. Alors ici, bien entendu, quand il dit « Voici l'homme est devenu », le mot « homme » suggère qu'Adam représente sa femme et aussi souligne son rôle, non seulement comme chef de famille, mais aussi comme chef de l'humanité. Alors, à part de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le couple avait droit de manger librement de tous les arbres du jardin, y compris celui de la vie. En s'en nourrissant, Adam et Ève exprimaient leur vie avec Dieu. Leur désobéissance provoque toutefois une rupture dans cette relation avec le Seigneur. Ce sont désormais des pécheurs condamnés à mort. Dieu leur interdit donc de prendre de l'arbre qui symbolise la plénitude de vie. La manière radicale dont il le fait témoigne avec force de leur malédiction. Alors, on a vu, oui, il y a de la vie, de tout ça, mais ils vont subir les conséquences quand même. Alors, la déclaration du serpent qu'il ne mourrait pas en mangeant du fruit défendu est en fait vide de sens. Ils ne perdent pas immédiatement leur vie physique, mais au lieu de goûter à la plénitude de vie dans leur communion avec Dieu dans le jardin, ils sont expulsés et privés du libre accès dans la présence de Dieu, c'est-à-dire de la vie éternelle. Ils ont besoin d'être protégés contre eux-mêmes, car ce serait un drame terrible que d'avoir la vie éternelle dans un état de pécheur corrompu. Verset 23, précisé dans le fait que Dieu, malgré la sévérité de tout cela, est quand même miséricordieux, la sanction est miséricordieuse, de verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Alors, être chassé d'un endroit, c'est pas dire, ben là, pourrais-tu, s'il te plaît, sortir? Chassé, ça veut dire, quand t'es chassé de quelque part, il faut que, comme on dit, sors puis ça presse. Alors, le chasseur du jardin d'Éden, et à remarquer, c'est qui le fait? L'Éternel Dieu, le chasseur du jardin d'Éden. Et là, encore là, il y a un autre signe de miséricorde pour qu'il cultivât la terre. Alors, il l'envoie dans le travail. Il l'envoie dans l'exécution de l'aspect de sa sentence. Pour manger, il faudra que tu travailles. Il l'envoie, mais il y a quand même de la miséricorde là-dedans. Et là, il dit, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Alors, le jardin d'Éden est comme un sanctuaire dans lequel Dieu est spécialement présent par son pouvoir à donner la vie. Rien d'impur ne peut subsister dans cet environnement. Adam et Ève ne quittent pas le jardin de leur propre choix, ils en sont expulsés. Quand tu te fais expulser de quelque part... Alors, cette expérience que le couple fait dans sa chair montre de façon dramatique ce qu'est la vie sous la malédiction divine. Tel est le sort de l'humanité sans la grâce de Dieu. Par notre naissance, nous sommes tous morts dans nos offenses et dans nos péchés, aliénés, étrangers, sous le coup de la colère de Dieu. La malédiction finale sera d'être exclu de la sainte cité avec tous ceux qui sont moralement impurs. C'est ce que les Écritures appellent la seconde mort. Alors la miséricorde divine s'exprime par le fait qu'ils ne sont pas expulsés du monde, mais du jardin, qu'ils ne sont pas envoyés directement en enfer, comme les anges qui ont péché. Mais, regardez, on va lire 2 Pierre 2,4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que pour la chute des anges, Dieu n'a pas eu de miséricorde. Pour la chute des hommes, Dieu a eu miséricorde. » Et ça, on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Alors aussi, ils ne sont pas envoyés directement en enfer comme les anges qui ont péché, sont envoyés à cultiver le sol au lieu d'être envoyés dans la tombe, et ils sont envoyés à la maison du travail plutôt qu'à la maison de la prison. Alors vraiment, il y a beaucoup de miséricorde dans cette partie-là. Maintenant, on va voir le dernier verset, le verset 24, « La vie protégée », parce qu'il y a vraiment l'idée de la protection là-dedans. « C'est ainsi qu'il chassa Adam. » Vous remarquez que dans les versets 23 et 24, le mot « chasser » est revenu 2 fois. Une fois dans le verset 23, une fois dans le verset 24. Quand il y a une répétition des Écritures, c'est vraiment « il est chassé pour de bon ». Alors il dit « Et il le mit à l'Orient, du Jardin d'Éden. » Et il mit à l'Orient, du Jardin d'Éden, les chérubins. Les chérubins, c'était qui? Des anges très puissants. Satan était un chérubin. Les chérubins, c'était les anges privilégiés, ceux qui vivent directement devant lui. Alors, et c'est sûrement les plus puissants, c'est sûrement les plus intelligents, c'est sûrement les plus combatifs, c'est sûrement les plus obéissants. Et il dit que c'est eux qui vont garder le jardin pour pas que l'homme rentre là-dedans. Tu ne rentres pas là-dedans à moins que tu suives les conditions divines. Foi au Messie, être vêtu convenablement, et qu'on a vu tantôt, les 4 choses qu'on a vues tantôt. Alors, il dit, les chérubins qui agitent une épée flamboyante. L'épée flamboyante, c'est le symbole des jugements de Dieu sur ceux qui tenteraient d'entrer dans le royaume sans... Alors, on l'a vu, quelqu'un, il dit, comment es-tu entré ici? Il dit, après ça, prenez-le, liez-le, poignez, mettez-le dans les ténèbres du dehors. Autrement dit, tu n'entres pas dans le ciel si tu n'es pas revêtu de la robe de justice. Dehors. Et là, dehors, c'est l'enfer. Fait que... Il dit que ces anges-là ont été mis là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin n'est pas complètement fermé à jamais, mais maintenant, le chemin est ouvert, mais par la porte étroite de l'Évangile. Alors, il est vraiment protégé avec puissance parce que les chérubins sont des êtres évangéliques qui participent à l'adoration et la louange de Dieu parce qu'on se souvient qu'avant sa rébellion, Satan était un chérubin, qu'on peut lire dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Le rôle des chérubins, c'est de magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. C'est une de leurs responsabilités essentielles tout au long de la Bible. Outre les chants de louange qu'ils adressent à Dieu, ils sont également faits pour rappeler la majesté et la gloire de Dieu et sa présence éternelle auprès de son peuple. C'est vraiment, sont des gardiens de la sainteté de Dieu. Alors, on ne rentre pas devant la présence de Dieu sans avoir passé par eux. Et eux, l'épée flamboyante, c'est « t'es mort automatiquement si t'essayes de rentrer ». Alors. Et les Écritures nous disent que ça va être une protection qui va être permanente parce que l'agitation va se faire à moins que tu rentres selon les conditions de Dieu, sinon il n'y a pas moyen de rentrer là. Et maintenant, cette protection-là laisse une ouverture à l'espérance. Alors le fait que Dieu les garde proches du jardin suggère qu'ils sont des prospects pour une réadmission à sa présence, mais à ses conditions. La porte peut être réouverte. Luc 13, versets 23-25, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Jean 10, versets 7 à 9, Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Et là, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » C'est beau. Sévérité, mais vie, espérance de Dieu dans tout ça. Que peut-on faire d'autre que de louer le Seigneur après un passage pareil? Trois applications. Louons le Seigneur pour son infinie miséricorde. Cette miséricorde se manifeste dans le fait qu'Adam comprend la portée de la promesse de Dieu dans Genèse 3,15. Il saisit qu'Ève sera mère et que par cette fonction qui lui est conservée, elle contribuera à la naissance future du Messie promis. Deuxième application, adorons notre grand Dieu qui revêt lui-même le pécheur par le sacrifice sanglant. Les exigences divines pour vivre dans sa présence sont rencontrées par le Sauveur Jésus-Christ et nous sont données par imputation, qui veut dire « mis sur notre compte ». Et troisième application, la porte du ciel est actuellement fermée et gardée contre l'intrusion des pécheurs non réconciliés avec Dieu. La seule possibilité d'entrer est de le faire par la porte Jésus-Christ. Que sa personne et son œuvre soient louées tout jamais. Exprimons quotidiennement notre joie, notre gratitude, nos louanges et notre adoration à Dieu et à Jésus-Christ. Amen.